de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. A-t-elle des goûts de bohémienne ? Elle a du goût pour les bijoux, en tout cas. Pour son émission Bonne Nouvelle Grand Comédien, Patrice Galbeau avait demandé à Micheline Prel de choisir deux nouvelles de Guy de Maupassant. Émission qui fut diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 juillet 1970.
J'ai choisi Les Bijoux, un conte de Guy de Maupassant. Monsieur Lantin, ayant rencontré cette jeune fille dans une soirée, l'amour l'enveloppa comme un filet. C'était la fille d'un percepteur de province mort depuis quelques années. Elle était venue ensuite à Paris avec sa mère qui fréquentait quelques familles bourgeoises de son quartier dans l'espoir de marier la jeune personne. Elles étaient pauvres et honorables, tranquilles et douces. La jeune fille semblait le type absolu de l'honnête femme à laquelle le jeune homme sage rêve de confier sa vie. Sa beauté modeste avait un charme de pudeur angélique et l'imperceptible sourire qui ne quittait point ses lèvres semblait un reflet de son cœur. Tout le monde chantait ses louanges. Tous ceux qui la connaissaient répétaient sans fin « Heureux celui qui la prendra, on ne pourrait trouver mieux. » Monsieur Lantin, alors commis principal au ministère de l'Intérieur, aux appointements annuels de 3500 francs, la demanda en mariage et l'épousa. Il fut avec elle invraisemblablement heureux. Elle gouverna sa maison avec une économie si adroite qu'il semblait vivre dans le luxe. Il n'était point d'attention, de délicatesse, de chatterie qu'elle n'eut pour son mari. Et la séduction de sa personne était si grande que 6 ans après leur rencontre, il l'aimait plus encore qu'au premier jour. Il ne blâmait en elle que 2 goûts, celui du théâtre et celui des bijoux trifauses. Ses amis, elle connaissait quelques femmes de modestes fonctionnaires, lui procuraient à tout moment des loges pour les pièces en vogue, même pour les premières représentations. Et elle traînait, bon gré, mal gré, son mari à ses divertissements qui le fatiguaient affreusement après sa journée de travail. Alors il la supplia de consentir à aller au spectacle avec quelques dames de sa connaissance qui la ramèneraient ensuite. Elle fut longtemps à céder, trouvant peu convenable cette manière d'agir. Elle s'y décida enfin par complaisance. Et il lui en sut un gré infini. Or, ce goût pour le théâtre fit bientôt naître en elle le besoin de se parer. Ses toilettes demeuraient toutes simples, il est vrai, de bon goût toujours, mais modestes, et sa grâce douce, sa grâce irrésistible, humble et souriante, semblait acquérir une saveur nouvelle de la simplicité de ses robes. Mais elle prit l'habitude de pendre à ses oreilles 2 gros cailloux d'urin qui simulaient des diamants. Et elle portait des colliers de perles fausses, des bracelets en similor, des peignes agrémentés de verroteries variées jouant les pierres fines. Son mari, que choquait un peu cet amour du clinquant, répétait souvent « Ma chère, quand on n'a pas le moyen de se payer des bijoux véritables, on ne se montre paré que de sa beauté et de sa grâce. Voilà encore les plus beaux joyaux. » Mais elle souriait doucement et répétait « Que veux-tu ? J'aime ça, c'est mon vice. Je sais bien que tu as raison, mais on ne se refait pas. J'aurais adoré les bijoux, moi. » Et elle faisait rouler dans ses doigts les colliers de perles, miroiter les facettes de cristaux taillés en répétant « Mais regarde donc comme c'est bien fait. On jurerait du vrai. » Il souriait en déclarant « Tu as des goûts de bohémienne. » Quelquefois, le soir, quand il demeurait en tête à tête au coin du feu, elle apportait sur la table où il prenait le thé la boîte de maroquin où elle enfermait la pacotille, selon le mot de Monsieur Lantin. Et elle se mettait à examiner ses bijoux imités avec une attention passionnée, comme si elle eût savouré quelque jouissance secrète et profonde. Et elle s'obstinait à passer un collier au cou de son mari pour rire ensuite de tout son cœur en s'écriant « Comme tu es drôle !» Puis elle se jetait dans ses bras et l'embrassait éperdument. Comme elle avait été à l'opéra une nuit d'hiver, elle rentra toute frissonnante de froid. Le lendemain, elle toussait. 8 jours plus tard, elle mourait, d'une fluxion de poitrine. Lantin faillit la suivre dans la tombe. Son désespoir fut si terrible que ses cheveux devinrent blancs en un mois. Il pleurait du matin au soir, l'âme déchirée d'une souffrance intolérable, hantée par le souvenir, par le sourire, par la voix, par tout le charme de la morte. Le temps n'apaisa point sa douleur. Souvent, pendant les heures du bureau, alors que les collègues s'en venaient causer un peu des choses du jour, on voyait soudain ses joues se gonfler, son nez se plisser, ses yeux s'emplir d'eau. Il faisait une grimace affreuse et se mettait à sangloter. Il avait gardé intacte la chambre de sa compagne où il s'enfermait tous les jours pour penser à elle. Et tous les meubles, ses vêtements même, demeuraient à leur place, comme ils se trouvaient au dernier jour. Mais la vie se faisait dure pour lui. Ses appointements qui, entre les mains de sa femme, suffisaient à tous les besoins du ménage, devenaient à présent insuffisants pour lui tout seul. Et il se demandait avec stupeur comment elle avait su s'y prendre pour lui faire boire toujours des vins excellents et manger des nourritures délicates qu'il ne pouvait plus se procurer avec ses modestes ressources. Il fit quelques dettes et courut après l'argent à la façon des gens réduits aux expédients. Un matin, enfin, comme il se trouvait sans un sou, une semaine entière avant la fin du mois, il songea à vendre quelque chose. Et tout de suite, la pensée lui vint de se défaire de la pacotille de sa femme, car il avait gardé au fond du cœur une sorte de rancune contre ces trompe-l'œil qui l'irritaient autrefois. Leur vue même, chaque jour, lui gâtait un peu le souvenir de sa bien-aimée. Il chercha longtemps dans le tas de clinquants qu'elle avait laissés, car jusqu'au dernier jour de sa vie, elle en avait acheté obstinément, rapportant presque chaque soir un objet nouveau. Et il se décida pour le grand collier qu'elle semblait préférer, et qui pouvait bien valoir, pensait-il, 6 ou 8 francs, car il était vraiment d'un travail très soigné pour du faux. Il le mit dans sa poche et s'en alla vers son ministère en suivant les boulevards, cherchant une boutique de bijoutier qui lui inspira confiance. Il en vit une enfin et entra, un peu honteux d'étaler ainsi sa misère et de chercher à vendre une chose de si peu de prix. « Monsieur, dit-il au marchand, je voudrais bien savoir ce que vous estimez ce morceau. » L'homme reçut l'objet, l'examina, le retourna, le soupesa, prit une loupe, appela son commis, lui fit tout bas des remarques, reposa le collier sur son comptoir et le regarda de loin pour mieux juger de l'effet. Monsieur Lantin, gêné par toutes ces cérémonies, ouvrait la bouche pour déclarer « Je sais bien que cela n'a aucune valeur » quand le bijoutier prononça « « Monsieur, cela vaut de 12 à 15 000 francs, mais je ne pourrais l'acheter que si vous m'en faisiez connaître exactement la provenance. » Le veuf ouvrit des yeux énormes et demeura béant, ne comprenant pas. Il balbutia enfin « Vous dites ? Vous êtes sûr ?» L'autre se méprit sur son étonnement et d'un ton sec « Vous pouvez chercher ailleurs si on vous en donne davantage. Pour moi, cela vaut au plus 15 000. Vous reviendrez me trouver si vous ne trouvez pas mieux. » Monsieur Lantin, tout à fait idiot, reprit son collier, s'en alla, obéissant à un confus besoin de se trouver seul et de réfléchir. Et dès qu'il fut dans la rue, un besoin de rire le saisit et il pensa « L'imbécile, oh, l'imbécile ! Si je l'avais pris au mot tout de même ! Ah, en voilà un bijoutier qui ne sait pas distinguer le faux du vrai !» Et il pénétra chez un autre marchand à l'entrée de la rue de la Paix. Dès qu'il eut aperçu le bijou, l'orfèvre s'écria « « Oh, parbleu, je le connais bien, ce collier. Il vient de chez moi. » Monsieur Lantin, fort troublé, demanda « Combien vaut-il ? » « Monsieur, je l'ai vendu 25 000. Je suis prêt à le reprendre pour 18 000 quand vous m'aurez indiqué, pour obéir aux prescriptions légales, comment vous en êtes détenteur. » Cette fois, Monsieur Lantin s'assit perclus d'étonnement. Il reprit « Mais, examinez-le bien attentivement, monsieur. J'avais cru jusqu'ici qu'il était en faux. » Le joaillier reprit « Voulez-vous me dire votre nom, monsieur ?»« Parfaitement. Je m'appelle Lantin, je suis employé au ministère de l'Intérieur, je demeure 16 rue des Martyrs. » Le marchand ouvrit ses registres, rechercha et prononça. « Ce collier a été envoyé en effet à l'adresse de Madame Lantin, 16 rue des Martyrs, le 20 juillet 1876. » Et les deux hommes se regardèrent dans les yeux, l'employé éperdu de surprise, l'orfèvre flairant le voleur. Celui-ci reprit « Voulez-vous me laisser cet objet pendant 24 heures seulement ? Je vais vous en donner un reçu. » Monsieur Lantin balbutia « Mais oui, certainement. » Et il sortit en pliant le papier qu'il mit dans sa poche. Puis il traversa la rue, la remonta, s'aperçut qu'il se trompait de route, redescendit aux Tuileries, passa la Seine, reconnut encore son erreur, revint aux Champs-Élysées sans une idée nette dans la tête. Il s'efforçait de raisonner et de comprendre. Sa femme n'avait pu acheter un objet d'une pareille valeur, non, certes, mais alors, c'était un cadeau. Un cadeau ? Un cadeau de qui ? Pourquoi ? Il s'était arrêté et il demeurait debout au milieu de l'avenue. Le doute horrible effleura. Elle ! Mais alors, tous les autres bijoux étaient aussi des cadeaux ? Il lui sembla que la terre remuait, qu'un arbre devant lui s'abattait. Il étendit les bras et s'écroula, privé de sentiments. Il reprit connaissance dans la boutique d'un pharmacien où les passants l'avaient porté. Il se fit reconduire chez lui et s'enferma. Jusqu'à la nuit, il pleura éperdument, mordant un mouchoir pour ne pas crier. Puis il se mit au lit, accablé de fatigue et de chagrin, et il dormit d'un pesant sommeil. Un rayon de soleil le réveilla, et il se leva lentement pour aller à son ministère. C'était dur de travailler après de pareilles secousses. Il réfléchit alors qu'il pouvait s'excuser auprès de son chef et il lui écrivit. Puis il songea qu'il fallait retourner chez le bijoutier et une honte l'empourpra. Il demeura longtemps à réfléchir. Il ne pouvait pourtant pas laisser le collier chez cet homme. Il s'habilla et sortit. Il faisait beau, le ciel bleu s'étendait sur la ville qui semblait sourire. Des flâneurs allaient devant eux, les mains dans leurs poches. Lantin se dit en les regardant passer, « Comme on est heureux quand on a de la fortune. Avec de l'argent, on peut secouer jusqu'au chagrin. On va où l'on veut, on voyage, on se distrait. Ah, si j'étais riche !» Il s'aperçut qu'il avait faim, n'ayant pas mangé depuis l'avant-veille, mais sa poche était vide et il se ressouvint du collier. 18 000 francs. 18 000 francs. C'était une somme, cela. Il gagna la rue de la Paix et commença à se promener de long en large sur le trottoir en face de la boutique. 18 000 francs. 20 fois il faillit entrer, mais la honte l'arrêtait toujours. Il avait faim pourtant, grand faim, et pas un sou. Il se décida brusquement, traversa la rue en courant pour ne pas se laisser le temps de réfléchir, et il se précipita chez l'orfèvre. Dès qu'il l'aperçut, le marchand s'empressa, offrit un siège avec une politesse souriante. Les commis eux-mêmes arrivèrent, qui regardaient de côté Lantin avec des gaietés dans les yeux et sur les lèvres. Le bijoutier déclara « Je me suis renseigné, monsieur, et si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions, je suis prêt à vous payer la somme que je vous ai proposée. » L'employé balbutia « Mais certainement. » L'orfèvre tira d'un tiroir 18 grands billets, les compta, les tendit à Lantin qui signa un petit reçu et mit d'une main frémissante l'argent dans sa poche. Puis, comme il allait sortir, il se tourna vers le marchand qui souriait toujours et baissant les yeux « J'ai d'autres bijoux qui me viennent de la même succession. Vous conviendrait-il de me les acheter aussi ?» Le marchand s'inclina. « Mais certainement, monsieur. » Un des commis sortit pour rire à son aise, un autre se mouchait avec force. Lantin impassible, rouge et grave, annonça « Je vais vous les apporter. » Et il prit un fiacre pour aller chercher des joyaux. Quand il revint chez le marchand une heure plus tard, il n'avait pas encore déjeuné. Ils se mirent à examiner les objets, pièce à pièce, évaluant chacun. Presque tous venaient de la maison. Lantin, maintenant, discutait les estimations, se fâchait, exigeait qu'on lui montrât les livres de vente et parlait de plus en plus haut à mesure que s'élevait la somme. Les gros brillants d'oreilles valent 20 000 francs, les bracelets 35 000, les broches, bagues et médaillons 16 000, une parure d'émeraude et de saphir 14 000, un solitaire suspendu à une chaîne d'or formant collier 40 000, le tout atteignant le chiffre de 196 000 francs. Le marchand déclara avec une bonhomie railleuse « Cela vient d'une personne qui mettait toutes ses économies en bijoux. » Lantin prononça gravement « C'est une manière comme une autre de placer son argent. » Il s'en alla après avoir décidé avec l'acquéreur qu'une contre-expertise aurait lieu le lendemain. Quand il se trouva dans la rue, il regarda la colonne Vendôme avec l'envie d'y grimper comme si c'eût été un mât de cocagne. Il se sentait léger à jouer à saute-mouton par-dessus la statue de l'empereur perchée là-haut dans le ciel. Il alla déjeuner chez voisin et but du vin à 20 francs la bouteille. Puis il prit un fiacre et fit un tour au bois. Il regardait les équipages avec un certain mépris, oppressé du désir de crier aux passants « Je suis riche aussi, moi. J'ai 200 000 francs. » Le souvenir de son ministère lui revint. Il s'y fit conduire, entra délibérément chez son chef et annonça « Je viens, monsieur, vous donner ma démission. J'ai fait un héritage de 300 000 francs. » Il alla serrer la main de ses anciens collègues et leur confia ses projets d'existence nouvelle. Puis il dîna au café anglais. Se trouvant à côté d'un monsieur qui lui parut distingué, il ne put résister à la démangeaison de lui confier, avec une certaine coquetterie, qu'il venait d'hériter de 400 000 francs. Pour la première fois de sa vie, il ne s'ennuya pas au théâtre et il passa sa nuit avec des filles. 6 mois plus tard, il se remariait. Sa seconde femme était très honnête, mais d'un caractère difficile. Elle le fit beaucoup souffrir. De Guy de Maupassant. 8 heures de chemin de fer déterminent le sommeil chez les uns et l'insomnie chez les autres. Quant à moi, tout voyage m'empêche de dormir la nuit suivante. J'étais arrivée vers 5 heures chez mes amis Muret d'Artus pour passer 3 semaines dans leur propriété d'Abel. C'est une jolie maison, bâtie à la fin du dernier siècle par un de leurs grands-pères et restée dans la famille. Elle a donc ce caractère intime des demeures toujours habitées, meublées, animées, vérifiées par les mêmes gens. Rien ne s'évapore de l'âme du logis, jamais démeublé, dont les tapisseries n'ont jamais été déclouées et se sont usées, pâlies, décolorées sur les mêmes murs. Rien ne s'en va des meubles anciens, dérangés seulement de temps en temps pour faire place à un meuble neuf, qui entre là comme un nouveau-né au milieu de frères et de sœurs. La maison est sur un coteau, au milieu d'un parc en pente, jusqu'à la rivière qu'enjambe un pont de pierre en dos d'âne. Derrière l'eau, des prairies s'étendent où vont d'un pas lent de grosses vaches nourries d'herbes mouillées et dont l'œil humide semble plein des rosées, des brouillards et de la fraîcheur des pâturages. J'aime cette demeure comme on aime ce qu'on désire ardemment posséder. J'y reviens tous les ans, à l'automne, avec un plaisir infini. Je la quitte avec regret. Après que j'eus dîné dans cette famille amie, si calme, où j'étais reçue comme un parent, je demandai à Paul Muret, mon camarade, « Quelle chambre m'as-tu donnée cette année ?» La chambre de Tante Rose. 1 heure plus tard, Madame Muret d'Artus, suivie de ses 3 enfants, 2 grandes fillettes et un galopin de garçon, m'installait dans cette chambre de la Tante Rose où je n'avais point encore couché. Quand j'y fus seule, j'examinais les murs, les meubles, toute la physionomie de l'appartement pour y installer mon esprit. Je la connaissais, mais peu, seulement pour y être entrée plusieurs fois et pour avoir regardé d'un œil indifférent le portrait au pastel de Tante Rose qui donnait son nom à la pièce. Elle ne me disait rien du tout, cette vieille Tante Rose en papillote effacée derrière le verre. Elle avait l'air d'une bonne femme d'autrefois, d'une femme à principes et à préceptes, aussi forte sur les maximes de morale que sur les recettes de cuisine, une de ces vieilles tantes qui effraient la gaieté et qui sont l'ange morose et ridé des familles de province. Je n'avais point entendu parler d'elle, d'ailleurs. Je ne savais rien de sa vie ni de sa mort. Était-elle de ce siècle ou du précédent? Avait-elle quitté cette terre après une existence plate ou agitée? Avait-elle rendu au ciel une âme pure de vieille fille, une âme calme d'épouse, une âme tendre de mère ou une âme remuée par l'amour? Que m'importait? Rien que ce nom, Tante Rose, me semblait ridicule, commun et vilain. Je pris un des flambeaux pour regarder son visage sévère, haut suspendu dans un ancien cadre de bois doré. Puis l'ayant trouvé insignifiant, désagréable, antipathique même, j'examinai l'ameublement. Il datait tout entier de la fin de Louis XVI et de la Révolution et du Directoire. Rien, pas une chaise, pas un rideau n'avait pénétré depuis lors dans cette chambre qui sentait le souvenir, odeur subtile, odeur du bois, des étoffes, des sièges, des tentures, en certains logis où des cœurs ont vécu, ont aimé, ont souffert. Puis je me couchais, mais je ne dormis pas. Au bout d'une heure ou deux d'énervement, je me décidai à me relever à écrire des lettres. J'ouvris un petit secrétaire d'acajou à baguette de cuivre placé entre les deux fenêtres, en espérant y trouver du papier, de l'encre. Mais je n'y découvris rien qu'un porte-plume très usé, fait d'une pointe de porc-épic et un peu mordu par le bout. J'allais refermer le meuble, quand un point brillant attira mon œil. C'était une sorte de tête de pointe jaune et qui faisait une petite saillie ronde dans l'encoignure d'une tablette. L'ayant grattée avec mon doigt, il me sembla qu'elle remuait. Je la saisis entre deux ongles et je tirai tant que je pus. Elle s'en vint tout doucement. C'était une longue épingle d'or glissée et cachée en un trou de bois. Pourquoi cela? Je pensai immédiatement qu'elle devait servir à faire jouer un ressort qui cachait un secret. Et je cherchais. Ce fut long. Après 2 heures au moins d'investigation, je découvris un autre trou presque en face du premier, mais au fond d'une rainure. J'enfonçai dedans mon épingle, une petite planchette me jaillit au visage et je vis 2 paquets de lettres jaunies, nouées avec un ruban bleu. Je les ai lus et j'en transcris 2 ici. Vous voulez donc que je vous rende vos lettres, ma chère amie? Les voici. Mais cela me fait une grande peine. De quoi donc avez-vous peur? Que je les perde? Mais elles sont sous clé. Qu'on me les vole? Mais j'y veille, car elles sont mon plus cher trésor. Oui, cela m'a fait une peine extrême. Je me suis demandé si vous n'aviez point au fond du cœur quelques regrets. Or, non point le regret de m'avoir aimé, car je sais que vous m'aimez toujours, mais le regret d'avoir exprimé sur du papier blanc cet amour vif, en des heures où votre cœur se confiait non pas à moi, mais à la plume que vous teniez à la main. Quand nous aimons, il nous vient des besoins de confidence, des besoins attendris de parler ou d'écrire. Et nous parlons et nous écrivons. Les paroles s'envolent, les douces paroles faites de musique, d'air et de tendresse, chaudes, légères, évaporées aussitôt que dites, qui restent dans la mémoire seule, mais que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni baiser, comme les mots qu'écrivit votre main. Vos lettres, oui, je vous les rends. Mais quel chagrin! Certes, vous avez eu après coup la délicate pudeur des termes ineffaçables. Vous avez regretté en votre âme sensible et craintive et que froisse une nuance insaisissable d'avoir écrit à un homme que vous l'aimiez. Vous vous êtes rappelé des phrases qui ont ému votre souvenir et vous vous êtes dit « Je ferai de la cendre avec ces mots ». Soyez contente, soyez tranquille. Voici vos lettres. Je vous aime. Mon ami, non, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas deviné. Je ne regrette point, je ne regretterai jamais de vous avoir dit ma tendresse. Je vous écrirai toujours, mais vous me rendrez toutes mes lettres, aussitôt reçues. Je vais vous choquer beaucoup, mon ami, si je vous dis la raison de cette exigence. Elle n'est pas poétique comme vous le pensiez, mais pratique. J'ai peur, non de vous, certes, mais du hasard. Je suis coupable. Je ne veux pas que ma faute atteigne d'autres que moi. Comprenez-moi bien. Nous pouvons mourir, vous et moi. Vous pouvez mourir d'une chute de cheval, puisque vous montez chaque jour. Vous pouvez mourir d'une attaque, d'un duel, d'une maladie de cœur, d'un accident de voiture, de 1000 manières. Car s'il n'y a qu'une mort, il n'y a plus de façon de la recevoir que nous n'avons de jour à vivre. Alors, votre sœur, votre frère et votre belle-sœur trouveront mes lettres. Croyez-vous qu'ils m'aiment? Moi, je ne le crois guère. Et puis, même s'il m'adorait, est-il possible que 2 femmes et un homme sachant un secret pareil, ne le raconte pas? J'ai l'air de dire une très vilaine chose en parlant d'abord de votre mort et ensuite en soupçonnant la discrétion des vôtres. Mais nous mourrons tous un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Et il est presque certain qu'un de nous deux précédera l'autre sous terre. Donc, il faut prévoir tous les dangers, même celui-là. Quant à moi, je garderai vos lettres à côté des miennes dans le secret de mon petit secrétaire. Je vous les montrerai là dans leur cachette de soie, côte à côte, dormant, pleines de notre amour comme des amoureux dans un tombeau. Vous allez me dire, mais si vous mourrez la première, ma chère, votre mari les trouvera, ces lettres. Oh, moi, je ne crains rien. D'abord, il ne connaît point le secret de mon meuble, puis il ne le cherchera pas. Et même s'il le trouve après ma mort, je ne crains rien. Avez-vous quelquefois songé à toutes les lettres d'amour trouvées dans les tiroirs des mortes ? Moi, depuis longtemps j'y pense, et ce sont mes longues réflexions là-dessus qui m'ont décidé à vous réclamer mes lettres. Songez donc que jamais, vous entendez bien, jamais une femme ne brûle, ne déchire, ne détruit les lettres où on lui dit qu'elle est aimée. Toute notre vie est là, tout notre espoir, toute notre attente, tout notre rêve. Ces petits papiers qui portent notre nom et nous caressent avec des douces choses sont des reliques, et nous adorons les chapelles, nous autres, surtout les chapelles dont nous sommes les saintes. Nos lettres d'amour, ce sont nos titres de beauté, nos titres de grâce et de séduction, notre orgueil intime de femme, ce sont les trésors de notre cœur. Non, non, jamais une femme ne détruit ses archives secrètes et délicieuses de sa vie. Mais nous mourrons comme tout le monde, et alors ? Alors, ces lettres, on les trouve. Qui les trouve ? L'époux. Alors, que fait-il ? Rien. Il les brûle, lui. Oh ! J'ai beaucoup songé à cela, beaucoup. Songez que tous les jours meurent des femmes qui ont été aimées. Que tous les jours les traces, les preuves de leurs faux tombent entre les mains du mari. Et que jamais un scandale n'éclate. Que jamais un duel n'a lieu. Pensez, mon cher, à ce qu'est l'homme, le cœur de l'homme. On se venge d'une vivante. On se bat avec l'homme qui vous déshonore. On le tue tant qu'elle vit parce que... Ah oui, pourquoi ? Ben, je ne le sais pas au juste. Mais si on trouve, après sa mort à elle, des preuves pareilles, on les brûle. Et on ne sait rien. Et on continue à tendre la main à l'ami de la morte, et on est fort satisfait que ces lettres ne soient pas tombées en des mains étrangères, et de savoir qu'elles sont détruites. Ah, que j'en connais bien parmi mes amis des hommes qui ont dû brûler ces preuves et qui feignent de ne rien savoir, et qui se seraient battus avec rage s'ils les avaient trouvées quand elles vivaient encore. Mais elle est morte. L'honneur a changé. La tombe, c'est la prescription de la faute conjugale. Donc, je peux garder nos lettres qui sont entre vos mains une menace pour nous deux. Osez dire que je n'ai pas raison. Je vous aime et je baise vos cheveux. Rose.
C'était « Bonne nouvelle, grand comédien » de Patrice Galbeau. Micheline Prel lisait deux nouvelles de Guy de Maupassant, « Les bijoux », puis « Nos lettres ». Réalisation Arlette Dave, première diffusion sur France Culture le 27 juillet 1970. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Thank you.